des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Docteur Dominique de Michel, bonjour.
Bonjour Simon.
Pour le bénévole, il s'agit donc d'avoir conscience de sa propre vulnérabilité. Il s'agit de se connaître un minimum, de s'accepter pour pouvoir communiquer avec l'autre, c'est-à-dire donner et recevoir. Et on en revient aussi à ce qu'on avait dit dans la précédente émission, on avait cité évidemment cette parole « aime les autres comme toi-même ». On entend dans cette phrase tout l'aller-retour du don et du contre-don, du don et de l'offrande. Il y a un mouvement intérieur vers soi qui est nécessaire pour aller vers l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas de soi et qui s'apprend.
Alors, je redis que moi, j'aime bien, aime l'autre pour toi-même, plutôt que comme toi-même. C'est plus compliqué à comprendre de dire pour toi-même. C'est-à-dire, aime l'autre, ce qui veut dire vraiment aimer l'autre, mais aussi pour toi, parce que ça va aussi te donner, par exemple, ce sentiment d'exister. Hein. Et c'est important dans la vie, c'est-à-dire de se dire que la vie a du sens. Par rapport à cet impératif là que vous disiez, hein, qui est un impératif à la Kant ou à la christianisme, peu importe, hein, ça se rejoint. Enfin, il y a évidemment en effet, on peut se demander où ça s'enracine. On voit d'ailleurs certaines personnes dans une position très très extrémiste que j'appelle les enragés du don, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas. Et le plus souvent, il y a quelque chose qui à un certain moment va casser chez eux. Et ça va casser. Pourquoi ? On va y revenir, justement, en raison de leur vulnérabilité. Je crois que c'est toujours au fond d'une nécessité intérieure, d'un appel intérieur, que s'enracine ce mouvement. Pour le meilleur, mais avec aussi parfois le risque que le don ne fasse pas du sens. Ça, c'est bien important de le rappeler, d'autant plus dans les situations où le don est un don projectif. C'est-à-dire, on va y revenir, c'est-à-dire où l'idée, c'est moi que je suis en train d'aider à travers l'autre, c'est essentiellement ça. Car il me semble que pour l'essentiel, des actes de bénévoles, en particulier ceux que nous posons dans la durée qui nous engage, nous sentons bien qu'ils sont une espèce de nécessité. Pourquoi ? Probablement parce que l'acte même d'écouter ou d'aider, et particulièrement pour les bénévoles, s'enracine dans deux blessures. Alors je rappelle, pour reprendre le mot vulnérabilité, que vulnérabilité, ça vient de vulnus et vulnérable. Donc on est vulnérable, c'est-à-dire on est apte, hein, aimable qu'on est apte à être aimé, défendable qu'on est apte à être défendu, voilà, vulnérable qu'on est apte à être blessé. Et au fond, nous sommes tous vulnérables. Donc je crois qu'il y a, pour le bénévole, surtout celui qui accompagne dans des situations difficiles, qui accompagne des blessés de la vie, il y a toujours deux blessures. Celle de celui qui appelle, ou qui convoque peut-être parfois même à l'écoute et au don, mais aussi celle de l'écoutant qui a besoin de donner. La vulnérabilité de l'autre, au fond, nous rappelle inlassablement notre propre vulnérabilité. Et au fond, quand je regarde l'autre blessé et que ça me touche, pour une part, bien évidemment, c'est l'objectivité de l'autre qui est extérieure à moi-même, mais si vraiment ça me touche intérieurement, éventuellement ça me trouble et ça m'invite à m'engager, c'est aussi parce que je sens cette vulnérabilité à l'intérieur de moi.
Alors, je voudrais qu'on insiste là-dessus, docteur Dominique de Michel, on en a parlé dans la précédente émission, mais sur les enjeux dont on parle là, c'est vrai qu'on ne parle pas d'un trésorier d'un club de foot, au pire des cas, il va y avoir des erreurs de trésorerie et puis ce sera de l'argent, mais là c'est quand même presque des vies humaines dans le cas de l'accompagnant, de l'aidant, du bénévole accompagnant. Dans le cas, nous parlons de, par exemple, de l'association Jalmav qui va accompagner des personnes en fin de vie. On n'a pas le droit à l'erreur, sinon on risque de faire plus de mal que de bien. Et on s'imagine que les résultats peuvent être catastrophiques. Ou alors encore dans des aides, par exemple, de l'écoute au suicide. Donc là, il y a une véritable responsabilité à la fois du responsable associatif et du bénévole de s'interroger sur ses intentions.
Oui, alors cette responsabilité, elle ne se situe pas directement sur le devenir de l'autre. Je ne peux pas penser que si j'écoute quelqu'un qui n'a qu'une seule envie, c'est de se suicider, que je suis responsable au point que je doive absolument l'empêcher de se suicider. Non, c'est pas possible ça. Ça serait un discours, à mon avis, de toute puissance. Ce dont je suis responsable, c'est d'essayer de faire le maximum à ma mesure, en me respectant et en respectant l'autre, pour l'aider à avancer. Je vais revenir sur un exemple, parce que ça m'y fait penser. Je rappelle très souvent que les deux fondements de la morale, c'est le respect et la bienveillance. Et j'aime bien donner des petits exemples contradictoires par rapport à ça, parce que ça permet de comprendre en particulier la position du bénévole. Le respect, c'est l'autre décide pour lui. Moi, je peux échanger avec lui. Je peux éventuellement lui dire mon ressenti par rapport à une situation. C'est ce que je fais, par exemple, en tant que psychanalyste. Mais je n'ai pas à lui dire, sauf si je suis dans une position parentale, hein, mais c'est autre chose. Je n'ai pas à lui dire ce qui est bon pour lui. Mais il y a une ombre. Par exemple, si je rentre dans une pièce, je vois quelqu'un qui est au bord de la fenêtre, qui est au cinquième étage, et qu'il a envie de sauter, je ne vais pas pouvoir revendiquer le respect de sa liberté. Parce qu'à ce moment-là, la bienveillance écrase le respect. Et je vais m'approcher de lui, je le prends, je le tire, je le rentre, je ferme la fenêtre, j'appelle les aidants ou les médecins compétents, et puis je dis, on réfléchira après. Donc là, la bienveillance est beaucoup plus importante. À l'inverse, de temps en temps, il arrive que la bienveillance s'érige en système, s'érige en position autoritaire. C'est-à-dire, au nom de ma bienveillance, je sais ce qui est bon pour toi. Voilà. Et ça, en particulier chez l'accompagnement des endeuillés, c'est une des ombres importantes. C'est-à-dire de dire, voilà, il faut tourner la page, par exemple. Voilà. Non, ce genre de conseil, quand bien même il serait pétri de bienveillance, c'est totalement inutile. Donc, vous voyez combien s'articulent ces deux choses.
Oui, cette responsabilité-là, évidemment, dont je parlais, parce qu'on se souvient, ou pas, mais moi, c'est vraiment une histoire qui m'avait bouleversé, de l'histoire de l'Arche de Zoé, où il y avait 6 membres d'une organisation caritative qui ont été jugés pour une tentative d'enlèvement d'enfants au Tchad. C'était en octobre 2007.
Tout à fait, oui.
Et ils se prétendaient être pleins de bonnes intentions.
Oui, tout à fait. Donc, je pense que là, vous voyez, on voit bien que... Alors, le pire, c'est que je ne connais pas très bien, je me souviens un petit peu de ces choses, je ne connais pas très bien, mais le pire, c'est s'ils étaient malhonnêtes, encore, bon, ça serait leur malhonnêteté. Mais il n'est pas impossible qu'ils aient été sincères, ces gens-là.
Oui, effectivement.
Et s'ils sont sincères, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi sur ce qu'est la nature de leur don. C'est-à-dire, au nom de la bienveillance, ils se donnent un pouvoir qui n'est pas légitime. Vous voyez ?
Alors, docteur Dominique Desmichel, quand on s'interroge en tant que bénévole, on peut parfois se rendre compte qu'il y a comme une dette que nous avons à payer envers le monde, envers la vie, pour être encore plus vague, quoi.
Voilà. Alors, je pense que cette notion de la dette, qui est une notion extrêmement importante dans la psyché humaine, parce qu'on a toujours des dettes vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa fratrie, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du monde. Hein. Il suffit de voir actuellement tout ce qu'on peut dépenser comme argent, et on sait que cette dette financière, ce sont nos enfants qui vont la payer. Et quand on dit ça, ça ressemble à une phrase un petit peu facile comme ça. Mais on sait aussi toute la dette qu'on a vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de plein de choses. Je crois que pour peu que l'on ait accès à sa propre vulnérabilité, une émotion appelle sans relâche vers l'autre, un sentiment pousse vers l'autre. Mais cet être qui, au fond, comme nous-mêmes, quand bien même on l'ignore, il nous ressemble. Ça, c'est très important. Et cet être en soi partagé, lui qui demande, moi qui veux donner, au fond, ça nous appelle à quelque chose. C'est-à-dire, au fond, à quitter cette sorte de centrage sur soi, avec cette part narcissique, dans le bon sens du terme aussi. Pour aimer les autres, il faut bien s'aimer soi-même. Hein. Si on ne s'aime pas, on va avoir du mal à aimer les autres. Mais aussi dans quelque chose qui est comme une sorte de manque. Le manque étant l'origine, on pourrait dire, du désir. Hein. Je rappelle que l'étymologie de désir, c'est désidéral, c'est-à-dire, en gros, c'est la nuit totale, c'est le ciel sans étoile, hein, de sidéra l'étoile. Donc, il y a toujours, dans le rapport à soi, à l'autre, comme une expérience, comme une épreuve aussi, une expérience, une épreuve d'altérité. Et par cet accès à l'autre, au fond, nous accédons à nous-mêmes. Donc, du côté de cet appel, il y a souvent quelque chose de l'ordre du manque. Et nous sentons que nous avons quelque chose à donner. Donc, ce sentiment de dette, ce sentiment de don, renvoie à quelque chose de l'ordre d'une dette. Hein. Alors, cette dette, le plus souvent, c'est ce que nous avons reçu, mais ça peut être aussi ce que nous n'avons pas reçu. Hein. Ça, c'est bien important.
Et donc, on arrive à une espèce de blessure de qui serait à l'intérieur du bénévole, blessure parfois consciente, parfois inconsciente,
voilà.
Et qui demanderait réparation quelque part.
Voilà, voilà, tout à fait. Et donc, la meilleure façon d'ailleurs de se réparer soi-même, c'est de tenter d'accompagner l'autre dans sa propre réparation. Et je dis bien, ça n'est pas de réparer l'autre. Je ne suis pas très sûr que l'on répare l'autre. La relation, de temps en temps, ça répare. De temps en temps, c'est une très, très bonne idée de se guérir, entre guillemets, de se guérir à deux. Hein, voilà. Je vais proposer dans un séminaire prochain là, un travail sur l'hygiène au fond du psychanalyste, et où je rappelle que c'est important de peut-être de continuer à se soigner soi-même dans ce travail-là. Et une bonne partie des aidants dans le champ du social, dans le champ du médical, ont cette nécessité intérieure de se soigner eux-mêmes et de se guérir eux-mêmes dans la relation.
Alors, se soigner soi-même, certes, mais cependant, selon Nietzsche, encore lui, je l'avais déjà cité la dernière fois, le philosophe aurait tout intérêt à se comporter comme un artiste, mais aussi comme un médecin, c'est-à-dire finalement être capable d'embrasser la vie dans tous ses composants avec force et sans compassion, qui, selon Nietzsche, est souvent handicapante. Un virus, c'est aussi une créature vivante, la maladie, ça fait partie de la vie. Et là, on voit la grande différence, en tout cas avec le bénévole qui va avoir cette blessure au fond de lui, et peut-être cet idéal du médecin qui, avec force, va réussir à guérir l'autre. Et c'est peut-être un idéal...
Moi, je ne crois pas que le médecin guérisse qui que ce soit. Ce qui guérit, ce qui soigne d'abord, hein, et je rappelle dans soi, on va y revenir, ce qui soigne, c'est ou le traitement que l'on donne, ou la relation. Probablement d'abord, avant tout, la relation, mais aussi de temps en temps, les médicaments. Hein.
Alors justement, le malade n'a-t-il pas besoin, dans une relation, non pas de quelqu'un de blessé en face de lui, mais quelqu'un de fort, au sens nietzschéen du terme ?
Dans le sens que je comprends de cette parole de Nietzsche, hein, dont on voit bien quand même, lui, il avait quelque chose autour de cet idéal, même si la notion de surhomme est une notion compliquée. Ce n'est pas le surhomme dans le sens du héros, hein, c'est d'essayer de l'appel au meilleur de soi-même. Hein, voilà, c'est quelque chose qui se joue intérieurement. Ce n'est pas jouer les Bruce Willis de la philosophie, de la métaphysique ou jouer les Mères Teresa. Hein. C'est vraiment quelque chose de l'appel au meilleur de soi-même. On peut bien comprendre, en effet, que si on est pris dans cette blessure de soi-même, c'est-à-dire dans cette compassion qu'invoque Nietzsche ici, alors probablement on ne peut pas aider. Mais je dirais l'inverse exactement vrai. C'est-à-dire celui qui, toute sa vie, aurait été heureux, sans aucune difficulté, où tout aurait été simple. Bon, je ne sais pas si ça existe beaucoup, mais il y a des gens qui peuvent être dans cette illusion consciente et même sincère.
Restons dans la théorie.
Celui-là, en tout cas, il n'ira jamais faire du bénévolat. Je ne pense pas.
Et pourtant, il pourrait être le plus utile, parce qu'il a justement cette expérience-là et cette force à donner.
Non, je crois pas. Non, je crois pas. C'est toujours à partir de sa blessure intérieure qu'on aide le plus l'autre. Voilà. On le sait très bien, d'ailleurs, que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Il ne se passe rien, d'ailleurs. Et c'est Ricoeur qui dit ça, d'ailleurs. L'histoire est faite pour réconcilier la mémoire blessée des hommes. Et on voit bien, d'ailleurs, que dans le travail du bénévole, alors on change un tout petit peu de registre, là, mais on revient peut-être à quelque chose autour du contenu, que le travail de l'écoute est fondamental. Et le travail de l'écoute, c'est quoi ? C'est le travail de l'écoute du récit de l'autre. Voilà. Hein. Donc, c'est un principe, en effet, tout à fait vital de se confronter à l'autre à partir de sa propre blessure. Et au fond, c'est dans souvent l'écoute de sa propre histoire qu'on va se rendre apte dans le sens le plus ontologique, le plus large, le plus vaste du terme, à l'écoute de l'autre. Si je ne rejoins pas, en tout cas, quelque chose de ma propre blessure et de mes propres limites, je ne peux pas écouter l'autre. Donc, le médecin, c'est un blessé. Et croyez-moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, très longtemps que je travaille aussi à l'hôpital, et les soignants qui ne sont pas des blessés, j'en ai jamais vu, ou ils ont très vite changé de métier, parce que il faut avoir quelque chose de l'ordre de blessé, de blessure intérieure, pour pouvoir écouter la blessure de l'autre.
Et cependant, on met le doigt sur un du grand mystère du bénévolat, de l'énigme du bénévolat, c'est que le médecin, lui, exerce un métier, il est donc rémunéré, et cela donne, quoi qu'il en soit, un sens à sa démarche. Il vient aussi en aide aux autres, parce que c'est son métier, parce que c'est ce qui lui fait gagner sa vie. Et ça le dédouane presque d'avoir à chercher en lui les raisons cachées de cette vocation, d'avoir à mettre le doigt sur cette blessure. Ça ne le concerne pas, il a un salaire. Et là, on est encore dans une grande différence, évidemment, avec le travail de l'aidant bénévole.
Alors, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Je reviens sur le deuxième, mais je vais revenir, vous faites penser de ne pas oublier, sur la question du salaire et la question de la dette. J'aurais envie de dire que dans l'expérience que j'en ai, il faut toujours être très prudent dès qu'on fait un petit peu des généralités. Les médecins qui ont le plus de mal à être dans la relation sont ceux pour lesquels l'accès à leurs blessures est le plus difficile. Mais ce sont souvent les plus blessés. Et on s'aperçoit bien, parce que dans ma position, moi, à l'hôpital, un peu d'écoutant, etc., ça fait longtemps que les médecins viennent aussi discuter comme ça, que l'accès à leurs blessures, en général, les ouvre à une humanité absolument fabuleuse. D'ailleurs, il arrive bien que ces médecins, qui soient uniquement dans le fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent à l'autre, c'est-à-dire le malade, que comme objet, hein, il y en a encore, peut-être beaucoup même, voilà, eh bien, à partir du moment où eux, ils vont avoir un petit accident de la vie, en général, ils découvrent leur vulnérabilité. Du coup, ils ont souvent, enfin, pour le meilleur des cas, accès à leur vulnérabilité, et ça change la relation à l'autre. Hein. Donc, voilà, je pense que c'est une des caractéristiques des médecins. On trouve ça beaucoup moins chez les infirmières, les aides-soignantes, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux, hein, qui, en général, dans le cadre de leur formation, ont travaillé cette dimension. Je me souviens très bien d'une jeune femme que j'ai suivie il y a très longtemps, enfin, pas que j'ai suivie, donc qui était une de mes patientes en médecine générale, et qui voulait devenir éducatrice. Elle a passé son examen, il y avait un examen écrit qu'elle a réussi, puis ensuite elle avait un entretien. Et en gros, ça s'est terminé avec, c'était un peu rude, vous allez voir, mais finalement pas si faux que ça, la dame qui l'interrogeait, qui lui a dit: Mademoiselle, vous n'avez pas assez souffert dans votre vie, vous ne serez jamais un bon travailleur social. Vous comprenez ? Alors, ça peut paraître complètement fou de dire une parole comme ça. Mais probablement, cette directrice, je ne sais pas trop quoi, cette responsable de cours qui faisait la sélection, savait bien que, justement, c'est dans cet accès à cette blessure qu'on devient, qu'on trouve une place juste.
Alors, je vais peut-être nuancer ce que je disais sur le médecin, parce que effectivement, il a peut-être une blessure, mais en tant que malade, je veux en face de moi un médecin fort, qui sait ce qu'il fait, qui n'hésite absolument pas, et pas un médecin qui va me raconter ses problèmes. Moi-même, j'arrive avec mes propres problèmes, vous voyez ce que je veux dire ?
La question, c'est, vous voulez un médecin qui soit fort, puissant, sûr de lui, etc. Je le comprends bien. Mais si vous êtes un vrai malade, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment en relation avec ce qui lui arrive, vous n'avez pas simplement envie d'avoir un excellent ordinateur qui a dans sa tête toute la connaissance de Google. Pas seulement, en tout cas. Ça, oui, mais aussi quelqu'un qui va pouvoir aussi vous dire ce qui est juste, ce qui va être bon pour vous. Hein. Donc, ça se joue aussi dans le champ de la relation. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'autre question, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué, peut-être on l'a dit un tout petit peu rapidement, cette question de la dette. Hein. Sur lequel on pourrait faire presque toute une émission. Cette question de la dette est importante. Une des caractéristiques, je vais prendre l'exemple peut-être plus du psychanalyste, hein, parce qu'au fond, pour le médecin qui est payé, il donne quelque chose. Voilà, il donne un diagnostic en général ou une évaluation, et il donne un traitement et potentiellement il donne un retour à l'état antérieur, c'est-à-dire une forme de guérison. Là, il y a une dette. C'est-à-dire, au fond, le patient, il est en dette vis-à-vis du médecin et il le paye. Donc, vous voyez, cette notion de payer le médecin donne une liberté aussi au patient. On voit d'ailleurs que dans certaines circonstances, le fait de ne jamais payer les aidants professionnels, je veux dire, peut créer un sentiment de dette, voyez, qui est d'ailleurs compensé par le fait que de temps en temps, les gens qui sont aidés par des aidants professionnels vont dire « Tenez, madame, emportez la salade ici, elle vient de mon jardin. » Ou « Ah ben là, écoutez, j'ai eu les poules, elles ont bien pondu et tenez, je vous donne. » C'est-à-dire de ce ressenti du côté de la dette, « Je ne vous paye rien, je suis remboursé complètement, ou il y a une avance des frais, etc. du tout. » Et donc, il y a ce sentiment de dette. Je pense que c'est très, très important vis-à-vis du psychanalyste, par exemple aussi, qui donne là que de l'être. Vous voyez, c'est-à-dire, il donne de la relation. Il ouvre quelque chose dans le champ d'une élaboration, dans le champ d'une émotion, dans le champ d'une mise en scène, dans le sens d'une mise en sens, au fond, on pourrait dire, à la fois en termes de signification, de direction et de sensorialité, et où la question de la dette peut se poser. Surtout quand les gens peuvent, au bout d'un certain temps, se dire « voilà, il y a quelque chose qui est important. Voilà, ce matin, je recevais à l'hôpital quelqu'un qui me disait bah, « quand même, toute ma famille m'a dit récemment « ah ben, dis donc, depuis que tu es à l'hôpital, quand même, tu vas quand même sacrément mieux. En tout cas, tu es sacrément moins pénible. Hein, continue à y aller. » Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a ce sentiment de dette. Voilà. Et il s'est trouvé qu'à partir de ça, cette dame m'a apporté un petit objet symbolique et que j'ai évidemment reçu, parce que cette dame, je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi, je suis salarié de l'hôpital, donc elle ne me paye rien directement, en tout cas à l'hôpital. Mais elle est venue et elle a dit quelque chose de sa dette. Je ne sais pas si elle était consciente ou pas, mais ce n'était pas le lieu d'en parler, ce n'était pas très, très important. Voilà, donc bien penser aussi que, voilà, il y a aussi cette dette symbolique, cette dette d'être, qui est aussi à prendre en compte.
Ouais, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus que cette dette symbolique, elle est en partie inconsciente. Et dans le cas du bénévolat, qui est le sujet de notre émission, ça peut effectivement poser problème, cette absence, a priori, de contre-don, oui. Même s'il existe, comme nous l'avons vu, avec tout ce que reçoit celui qui donne. Docteur Dominique Demichel, revenons à notre bénévole. Entre le désir d'aider, nous l'avons vu, le besoin d'aider, le désir d'aider et le respect de soi, il y a donc une tension.
Oui, alors moi je crois que ça c'est très important. Je renverrai en tout cas au mot que j'avais employé tout à l'heure, ces trois adjectifs qui sont importants, qu'on retrouve dans plusieurs approches, dans le Gestalt et d'autres approches aussi. C'est-à-dire je suis touché, je suis troublé, je suis bouleversé. Il me semble que si dans une situation particulière d'accompagnement, des blessés de la vie au sens large du terme. Si je ne suis pas touché dans une partie de moi-même, vraisemblablement, je ne vais pas être à même de pouvoir aider l'autre. Si je suis troublé, alors c'est important que je sois vigilant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mon sentiment d'exister, de mon désir qui va être en quelque sorte mis en question. Et à moi de voir si il suffit juste que j'aime me dire « oui, finalement, je me rappelle... » l'histoire de ma grand-mère, ou si je me rappelle la mort de tel ami, ou autre chose comme ça. Et du coup, j'arrive à me recentrer, à me retrouver une sorte de sérénité intérieure. Ou s'il y a quelque chose qui est trop énigmatique pour moi, que je n'arrive pas à comprendre et à saisir, et dans ces cas-là, c'est important que je me retire. Et troisième situation, quand on est bouleversé, alors là, il n'y a pas de problème, on risque de faire seulement des bêtises, ou pire, des dégâts. Et donc, en effet, on prend de la distance.
Il faut mettre des limites à la générosité. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. On a l'impression qu'être généreux n'a pas de limite, mais il faut absolument mettre des limites. Et là, je me permettrai de parler de la Bible, parce que souvent, dans ces questions-là, quand on revient à la Bible, il y a une grande, grande sagesse. C'est le livre de l'Exode, où on se rend compte qu'au moment où de la construction du temple, où il est demandé à tout le monde d'apporter de l'or, des matériaux précieux pour construire le temple, à aucun moment le verbe « donner » n'apparaît dans le texte, mais parce qu'il n'y a que Dieu qui donne tout simplement, mais donner est remplacé par faire venir, nous dit Tamar Schwartz, qu'on retrouve sur le site Academ. Et à un moment donné, si on s'en souvient, on ira voir, c'est au chapitre 35. Il faut calmer les élans du peuple parce qu'ils apportent trop de choses. Et à un moment donné, on dit stop, arrêtez de donner, faisons un point et voyons pourquoi vous donnez. N'est-ce pas par arrogance, pour flatter votre ego ?
Alors, je ne connais pas du tout ce dont vous me parlez, mais je trouve que c'est intéressant. N'oubliez pas de me donner vos références avant la fin de cette émission. Il y a deux choses. De temps en temps, en effet, le fait de donner se fait par arrogance ou par cette part du narcissisme qui n'est pas pertinente.
En tout cas, il faut s'interroger sur
les motivations. En tout cas, il faut s'interroger, voilà. En général, quand même, aider les blessés de la vie, c'est pas énormément renarcissisant au premier degré. Au premier degré, voilà. Hein, voilà. Derrière, il y a quelque chose, en effet, en tout cas, de Narcisse. Hein, il faut se rappeler quand même que Narcisse, ça se termine mal, Narcisse. Hein. Voilà, parce que c'est la deuxième part du narcissisme. Il y a un narcissisme primaire qui est « c'est important que je m'aime, moi-même ». Et puis, il y en a un autre qui est une sorte de dérive, c'est-à-dire je n'aime que moi-même, ou j'aime l'autre uniquement pour m'aimer moi-même. Ce qui me semble beaucoup plus important, c'est cette dimension sacrificielle que vous avez évoquée, et en particulier de moi, ce que j'appelle l'altruisme sacrificiel. Hein. Je crois qu'il y a vraiment là une ombre du christianisme. C'est-à-dire, moi, je redis souvent cette phrase, c'est « la générosité s'arrête toujours là où commence l'oubli de soi-même, là où commence voire l'oubli ou le mépris de soi-même. Hein. C'est-à-dire, si je donne au point de me retrouver en plein hiver par moins 15, tout nu au milieu de la rue, à entendre évidemment dans une dimension symbolique, c'est-à-dire j'ai donné mes vêtements, j'ai donné mon temps, voilà, et je me suis oublié, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Eh bien, au lieu d'avoir un blessé que je peux aider et puis moi qui reste bien en vie, il va y avoir deux blessés et peut-être un donateur qui va mourir et qui va mourir de ce don. Hein. Voilà. Alors là, on est dans une espèce d'approche extrêmement christique, mais dans un Christ, à mon avis, mal compris. Hein, parce que, voilà, il n'y avait rien de suicidaire, hein, de tuer soi-même dans ce genre de choses. Mais vraiment, pouvoir se dire que la générosité s'arrête là où commence le mépris de soi-même, pour moi, c'est la règle fondamentale.
Docteur Dominique de Michel, un grand merci. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre série d'émissions sur le bénévolat. Merci.
Merci Simon. Au revoir à tous.